BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Merci de nous être fidèles jour après jour. Voici BFM Patrimoine qui vous ouvre ses portes pour 2 heures d'expertise afin que vous puissiez gérer au mieux votre patrimoine. Et on commence tout de suite par l'actualité éco avec Raphaël Couder.
BFM Business, l'info éco.
Et on commence avec cette information qui vient de tomber. La Cour d'appel de Paris confirme la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président est condamné à 3 ans de prison ferme, dont 2 ans avec sursis. Il va se pourvoir en cassation. Dans l'actualité économique, les industriels de l'agroalimentaire reçus à Bercy ce matin, alors que le gouvernement les presse de renégocier avec les distributeurs pour faire baisser les prix. En cas de refus, Bruno Le Maire menace de faire du name and shame ou même d'employer des instruments fiscaux pour récupérer des marges, je cite, indues, faites sur le dos des consommateurs. Les syndicats renouent le dialogue avec la première ministre. Elisabeth Borne reçoit ce matin les représentants de la CFE-CGC, suivis de ceux de la CFTC. Hier, Force ouvrière et la CFDT ont rappelé leur opposition à la réforme des retraites. La question des salaires a également été au centre des discussions. Le taux de chômage est resté stable au premier trimestre de cette année à 7,1% selon des chiffres publiés par l'INSEE. Il reste inférieur de 0,3 points à son niveau d'il y a un an. Et si l'on met de côté la crise sanitaire, il faut désormais remonter au premier trimestre de 2008 pour retrouver des niveaux équivalents. Rien ne va plus en revanche dans l'immobilier. Les professionnels du secteur s'alarment face à la baisse de réservation de logements neufs. Pour y remédier, Bercy envisage d'assouplir les critères d'octroi de crédit, une mesure nécessaire pour Didier Bélier-Gagnère, le délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers. Écoutez.
Là, typiquement, c'est une mesure qui n'a absolument aucun coût. C'est simplement une réglementation qui évolue et qui change. Et qui permettrait, effectivement, de redonner, en faisant évoluer le taux d'effort, de redonner du pouvoir d'achat et de la solvabilité aux ménages. Le cœur du problème, il est là.
Dans l'actualité des entreprises, Vallourec démarre l'année sur les chapeaux de roue. Le sidérurgiste publie un chiffre d'affaires en hausse de 46% au premier trimestre. Son activité est surtout soutenue par d'importantes prises de commandes de ses clients, notamment de la part de compagnies pétrolières du Moyen-Orient. Et puis, l'agence Fitch, dégrade la note de Casino et juge désormais qu'il existe un risque de défaillance très important. Hier, le distributeur a annoncé qu'il se donnait jusqu'au 23 mai avant une éventuelle conciliation pour renégocier sa dette. Cette décision va mener à une forme de restructuration selon Fitch, alors que Casino est aujourd'hui endetté à hauteur de plus de 6 milliards d'euros.
Merci beaucoup. Raphaël, on se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, c'est l'heure de filer à la bourse.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on y retrouve Antoine Larrigauderie comme chaque matin pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Bonjour Antoine, quelle est la tonalité du jour ?
Bonjour Cédric. La tonalité, c'est que la consolidation se poursuit, entamée hier. Alors, elle n'est pas bien lourde. Hein. Ce n'est pas une consolidation turbo, c'est une consolidation plutôt à vélo. Le CAC 40 recule de 0,32%. On est à 7 382 points. On décroche un petit peu des 7 400. Enfin, rien de bien dramatique. À noter qu'on réagit davantage à ce qui se passe du côté des États-Unis. Alors, toujours les problèmes du plafonnement de la dette. On a eu une consolidation assez marquée du Dow Jones, notamment hier, des valeurs industrielles. Et puis aussi, on a dû déplorer un avertissement assez important de Home Depot, qui est quand même un baromètre de la consommation américaine. Et ça a jeté un petit peu un froid. Ça a permis en tout cas au CAC 40 d'aller dans un sens, celui de la descente. Enfin, ça faisait quand même des jours et des jours qu'on ne faisait plus rien. Donc là, important qu'on ait un petit pullback significatif pour remettre un petit peu en perspective les choses. À noter que l'Eurostock 50 lui recule de 0,16%. En revanche, le DAX à Francfort lui est en légère progression, plus 0,14%. Alors à noter que la volée de résultats du jour est pas vraiment fameuse. Hein. On a des arbitrages négatifs. Alors, autour d'Elior, qui perd quasiment 20%, hein, forte baisse d'Elior. Moins 19,7%, on tombe à 3,10€. On a également Euronext, qui déçoit avec ses chiffres d'activité trimestrielle. Le titre perd 4,3% à 66,35€. Et puis, on a, Raphaël, vous en parlez, les résultats de Vallourec, eux, en revanche, qui sont arbitrés très, très positivement. Plus 7,3% pour le titre, qui cote à 11,18€. À noter que le secteur parapétrolier, de manière générale, plutôt bien orienté. On a GTT aussi qui gagne 0,8% à 98€. Sur le CAC 40, ce sont d'ailleurs des valeurs industrielles qui signent les hausses les plus significatives. Alstom plus 1,2% à 26,74€. Airbus plus 0,8% à 127,26€. Et puis Michelin plus 0,6% à 27,48€. À la baisse, on retrouve pas mal de secteurs. On a l'immobilier commercial, notamment Unibail-Rodamco Westfield qui perd 2% à 43,51€. À noter le luxe hein, qui n'est pas très bien orienté. Moins 1% pour L'Oréal qui est à 415,15€. Ou encore le secteur bancaire. Mal orienté lui aussi, moins 0,5% pour le Crédit Agricole. On est à 11,67. Le CAC donc moins 0,3, 7383 points. Et puis à noter, un des facteurs du jour, c'est cette remontée du dollar qui se poursuit. L'euro tombe à 1,0839 et l'once d'or fin est tombée significativement sous les 2000$. On est à 1992.
Antoine Larigauderi, chaque matin à l'entame de BFM Patrimoine pour regarder ce qui se passe sur les tables de marché une heure après les premiers échanges. Bonne séance Antoine, nous on reste connectés à la bourse et on explore la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Et on retrouve Pierrick Bochet, bonjour Pierrick.
Bonjour Cédric.
Merci de nous accueillir chez InnoCap Gestion pour suivre un dossier que vous aviez déjà évoqué dernière fois en mars dernier, SES Imagotag. On rappelle d'abord qui est SES Imagotag ?
SES Imagotag, c'est le leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique. Alors ce n'est pas une recommandation, mais un exemple parmi nos convictions d'investissement. InnoCap Gestion est actionnaire de SES Imagotag depuis de nombreuses années au sein de notre gamme de fonds Quadriges. Cette magnifique ETI française construit la révolution digitale du commerce physique. L'intelligence de ces innovations permet aux chaînes de distribution de réduire leurs coûts et d'augmenter leurs ventes, restaurant une partie de la rentabilité perdue par les pressions inflationnistes. Alors ces solutions rendent des magasins plus rentables, plus agiles, mieux connectés et pilotés par la data. SES Imagotag contribue également à la décarbonation du commerce. Alors effectivement, en mars, nous mettions en avant la formidable croissance de ses résultats, en hausse de plus de 80% en 2022. Et ses très solides perspectives de croissance en 2023, avec des ventes attendues en croissance de plus de 30% et des résultats qui devraient être en progression de plus de 100%. La vision de son management sur les services à valeur ajoutée est juste incroyable. Ce sont ces services, activables dans le cloud, qui rendent les étiquettes intelligentes et totalement vivantes. Il représente le cœur de l'intelligence apportée par ces innovations et leur rentabilité est très élevée.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête quand on s'intéresse à SES Imagotag. Et puis, je le disais, c'est un suivi de ce dossier puisqu'il y a du nouveau du côté de Walmart.
Ça y est, Cédric, c'est signé. Le géant américain Walmart vient de confier à SES Imagotag le plus gros contrat de toute l'histoire des étiquettes électroniques. SES Imagotag s'était donné les moyens de cette ambition en investissant 50 millions d'euros pour développer ses solutions digitales de nouvelle génération dédiées à Walmart. C'est une plateforme qui est constituée de rails intelligents mutualisant l'énergie et non plus de simples étiquettes électroniques. Alors le contrat, il est gigantesque. Plus de 4500 magasins à équiper aux États-Unis, environ 120 000 étiquettes par magasin, soit un déploiement total représentant plus de 500 millions d'étiquettes d'ici 5 à 7 ans. Valeur potentielle du contrat, 3 milliards de dollars. L'accélération est phénoménale. Au cours des 20 dernières années, SES Imagotag a vendu un cumul de 400 millions d'étiquettes. Et pour rappel, en 2022, ses ventes étaient de 621 millions d'euros. Alors il y a également un volet capitalistique associé à ce contrat. Et Walmart devrait entrer au capital de SES Imagotag à partir de 700 millions de dollars de facturation, pouvant monter progressivement jusqu'à 10% du capital sur la base d'une facturation totale de 3 milliards de dollars. La beauté du modèle réside dans ces fameux services à valeur ajoutée que l'on évoquait. Walmart s'est engagé à souscrire à ces services et à payer 10 cents par étiquette par an. Sur la base d'un parc de 500 millions d'étiquettes, ça fait 50 millions d'euros. Mais ça, c'est du profit, puisque c'est du logiciel. Et c'est bien l'activation de ces services qui va permettre à Walmart de baisser ses coûts tout en augmentant ses revenus. Un niveau de 30 centimes par étiquette par an nous paraît tout à fait crédible. Cela représente 150 millions d'euros de profit. Il s'agit bien d'une estimation à un horizon de 5 ans, mais c'est quand même 5 fois le montant des profits totaux de l'année 2022, qui était d'un peu plus de 30 millions d'euros. Alors la création de valeur potentielle est juste colossale. Et ce contrat emblématique marque probablement l'enclenchement de l'ouverture du marché américain et il devrait agir comme un bélier dès 2024. L'objectif du plan 2027, qui est d'atteindre 2,2 milliards de chiffre d'affaires, dont 900 millions d'euros sur la zone Amérique du Nord, pourrait probablement être atteint dès 2025. L'accélération de la croissance de la valeur, cette accélération est bien enclenchée et elle pourrait durer quelques années.
Eh bien voilà, SES Imagotag mis en lumière ce matin depuis InnoCap, gestion par Pierrick Bochet. Puis si on se réfère au consensus des analystes qui suivent la valeur, ils ont une recommandation d'achat et un objectif de cours moyen de 183,25 €. Merci Pierrick. Très bonne séance sur ce marché parisien qui pour le moment se replie de 0,16%, 7394 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Yvan Mamallet nous attend chez Société Générale CIB. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. On a pas mal de choses à se raconter ce matin et on va commencer par de l'emploi, du marché de l'emploi. On s'appuie bien évidemment sur nos tout derniers chiffres, publiés par l'INSEE. 7,1% pour le taux français. C'est un niveau jamais vu depuis 1982. Et c'est l'occasion du coup de faire un petit peu un panorama de ce marché du travail un peu partout. Europe, Royaume-Uni, États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Yvan?
Alors, sur le marché du travail, je pense qu'il y a deux tendances de fond qui se retrouvent un peu dans les grandes régions. On a d'une part un marché tendu, voire très tendu, avec un taux de chômage qui est effectivement sur les plus bas depuis plusieurs décennies, avec un taux d'activité qui augmente et des difficultés de recrutement pour les entreprises. La deuxième tendance, c'est qu'on a malgré tout, depuis quelques mois, des signaux de ralentissement. C'est principalement vrai aux États-Unis, Royaume-Uni, un peu moins en zone euro, et les chiffres français confirment un peu que pour la France également, il n'y a pas tant que ça de ralentissement récemment. Mais voilà, apaisement des tensions, au moins au Royaume-Uni et États-Unis. Bon, si je regarde dans le détail, les États-Unis, on a eu 250 000 créations d'emplois en avril. Depuis le début de l'année 2023, donc sur 4 mois, plus d'un million d'emplois créés aux États-Unis. Un taux de chômage qui est au plus bas depuis 1960, et toujours en fait le sentiment d'un marché très tendu. On a quelques signaux de ralentissement néanmoins. En fait, les créations d'emplois au cours des 3 derniers mois sont moins fortes qu'elles n'étaient en fait en 2022. Du côté des salaires, également tassement. On est juste en dessous de 4,5%. On était au pic à 6% de croissance des salaires. Mais je disais tassement, apaisement des tensions, mais enfin on est toujours sur les rythmes de création d'emplois, de salaires qui sont très forts, trop forts pour que la Fed puisse baisser les taux très rapidement. Au Royaume-Uni, on est dans une situation aussi similaire. On a eu des destructions d'emplois en fait au mois d'avril, chiffre très volatile, donc prendre avec des pincettes. On a malgré tout des signaux de ralentissement, mais pas d'effondrement. Zone euro, je terminerai dessus. Zone euro, 1 million d'emplois créés. Sur le premier trimestre, alors qu'on avait une croissance de 0,1%, donc très forte création d'emplois, ce qui montre que les entreprises sont quand même assez confiantes que la demande va rester forte. France, vous l'avez dit, on est taux de chômage au plus bas depuis 40 ans, taux d'activité au plus haut historique, on a une augmentation des heures travaillées et une baisse des chiffres de sous-emploi. Donc très fort dynamisme du marché du travail en zone euro, en France. Probablement un décalage par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc, on aura bien un ralentissement au cours des mois, mais on s'attend pas à un effondrement du marché du travail.
Et puis, il y a d'autres statistiques qui nous sont venues du côté de la Chine, du côté des États-Unis, et de part et d'autre, c'est peut-être un petit peu moins brillant. D'abord, un petit mot rapide de la Chine.
Alors oui, des données assez décevantes pour le mois d'avril en Chine, mais attention, elles viennent après un rebond post-Covid, un rebond très fort depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que quand on regarde production industrielle, les exportations, l'immobilier, on a le sentiment que en fait le rebond est stoppé. Quand on regarde les services, par contre, on a toujours un très bon dynamisme, notamment du côté du tourisme, avec des demandes de billets d'avion, etc., qui sont toujours très fortes. Et ça, c'est plutôt positif pour la croissance, pour la zone euro en termes de tourisme.
Et du côté américain, c'est aussi un peu demi-teinte, hein.
Oui, c'est en demi-teinte aux États-Unis. On a les indices de climat des affaires qui sont plutôt, voilà, qui ont plutôt bien baissé. Les indices moraux des ménages qui sont assez faibles. Mais la consommation, les ventes au détail hier, qui étaient assez solides et qui montrent qu'en fait, l'excès d'épargne qui a été accumulé par les ménages pendant la pandémie est toujours présent et est toujours utilisé. Et donc, je pense que pour les États-Unis, on est encore très, très loin d'une situation de récession. Et donc, pour revenir à ce que je disais, très loin d'une situation où la Fed pourrait commencer à baisser les taux. Pour la Fed, il me semble que c'est chez les chiffres récents, plutôt la question de savoir est-ce que c'est une pause ou est-ce qu'on a encore, peut-être dans la deuxième partie de l'année, des possibilités de hausse de taux. C'est pas notre scénario, mais en tout cas, les chiffres récents vont plutôt dans ce sens-là que vers des hausses rapides de la Fed.
Merci beaucoup Yvan Mamallet et Société Générale CIB qui nous accompagnaient ce matin. Le marché parisien, il est passé sous les 7394 points. Il baisse de 0,16%.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le club IMO qui accueille Virginie Grelot, Marie Cœur de Roy et Gaëlle Thomas. Bonjour tout le monde.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Virginie pour Challenge, Gaëlle pour Business IMO et Marie Cœur de Roy qui nous accompagne chaque matin sur ce monde immobilier. On commence par un électrochoc, Gaëlle.
Oui. On parle du logement. Il y a eu une lettre de 6 organisations professionnelles vis-à-vis de Macron. Là, on est dans un momentum en fait où il y a une crise violente, profonde, sévère sur le logement et il y a une absence de réponse. Alors j'étais voir sur le Larousse, moi, électrochoc, la définition, juste puisque au bout d'un moment on essaye de dire électrochoc face au double choc de
et
Macron.
Et alors que nous dit le DICO ?
Méthode de traitement des dépressions graves et de certaines psychoses qui consiste à provoquer des convulsions épileptiques par le passage bref de courant à travers le cerveau. C'est quand même violent comme. Alors dépression grave, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un petit peu l'état du marché du logement. Juste quelques chiffres. Aujourd'hui, on a eu les chiffres des réservations de logements neufs au premier trimestre, -41, on est à moins de 20 000 ventes. Oui. On a eu quelques chiffres sur les ventes investisseurs, toujours en logement neuf, on est à -46 depuis le début de l'année. On a eu les ventes institutionnelles, investisseurs institutionnels sur tout le logement, y compris l'ancien, on est à -83% sur le premier trimestre. Bon, voilà, là, on est dans le dur. Les seuls chiffres qui augmentent, c'est ceux des demandeurs de HLM.
On le redit, 2,5 millions, un record historique.
Donc là, franchement, on est sur un coup d'arrêt qui était peut-être inattendu par sa violence, son ampleur et sa rapidité, même si on pouvait
inattendu,
penser...
Inattendu, pour ceux qui ne voulaient pas regarder, quand même.
On sait que la hausse des taux est le principal facteur et que tant qu'on n'ajuste pas les prix, y a un effet de ciseau qui fait que le marché se bloque. Là, aujourd'hui, le marché il est bloqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le marché est bloqué ? On demande à l'exécutif de pouvoir le débloquer. Et que répond Macron ? Il répond dans Challenge. Hein. C'était assez bien son interview.
Bravo, bravo Virginie.
On a créé un système de surdépenses publiques pour de l'inefficacité collective. Oui. Ça, c'est le constat, mais c'est le constat qu'on fait depuis 2-3 décennies. Donc là-dessus, on ne pourra pas le mettre au bilan de Macron. Il a raison, c'est le constat, mais il faut aller un peu plus loin. On finance l'offre, l'investissement et la demande. C'est vrai qu'on finance un peu tout et son contraire. On n'est pas une contradiction près. Il y a d'autres secteurs où on essaye de promouvoir la transition écologique, puis on subventionne l'essence pour permettre de rouler le temps d'eux.
Ça arrive.
Voilà. Il parle de paradis pour les investisseurs immobiliers. Il oublie que c'est aussi un paradis pour Bercy, parce que ça ramène un tout petit peu d'argent et un peu de taxes. Bon, voilà. Là, on est dans une espèce de non-communication. La seule communication qui a été faite, finalement, elle a été faite par Gabriel Attal, qui a dit il va falloir faire des économies. Il y a deux ministères qui vont être concernés, ministère du Travail. On a eu les chiffres de l'emploi ce matin, ils sont plutôt bons, on peut comprendre, il faut faire 5% d'économie.
Mais pour logement, non.
Le ministère du Logement.
C'est bizarre. Hein.
Voilà, ouais. 5% aussi sur un budget qui fait, je crois, un peu plus de 17 milliards.
Ce qu'il faut se poser comme question quand on applique un traitement, c'est si le malade va correctement répondre. Finalement, est-ce que le président de la République est sensible aux électrochocs ?
Franchement...
Je ne suis pas sûr. Je sais pas, personne ne sait ce qui se passe entre Macron et l'immobilier. Il y a une espèce de malentendu. Est-ce que ça date depuis qu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée et qu'il avait planché un moment sur le logement intermédiaire du temps de François Hollande et puis ça aboutit à rien du tout. Je ne sais pas. Il y a une espèce de malentendu et aujourd'hui, il y a toute une filière qui est en train de s'unir parce que depuis le foncier de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'à la commercialisation, aujourd'hui,
ouais, tout le monde est là.
Encore une fois, crise parfaite, nous disait le patron de la Caisse des dépôts la semaine dernière à l'antenne. Crise parfaite dans le sens où tout va mal. Et alors, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, l'électrochoc, il y a une connotation d'urgence et de mesures épidermiques, j'ai envie de dire. Et oui, c'est effectivement ce que réclament les acteurs du secteur. On a reparlé du PTZ, mais il y a plein d'autres choses. Des mesures qui, en vrai, ne vont pas résoudre le problème. Moi, je ne crois pas que le crédit soit le problème, en fait, aujourd'hui. Je pense que c'est la politique, l'absence de politique de logement, en fait. Et d'où le CNR logement dont on attend les conclusions. Alors, a priori, on le sait maintenant. Ce serait le 5 juin au lieu du 9 mai comme c'était prévu au départ. Mais l'idée du CNR logement, c'était justement qu'on puisse enfin prendre des mesures qui certes ne porteront sans doute leurs fruits qu'à moyen long terme et dont donc, du coup le gouvernement actuel n'en récoltera sans doute pas les fruits, mais pour autant c'est nécessaire pour éviter justement ces mouvements de stop and go sur des dispositifs souvent très coûteux et à chaque fois on nous rabâche que ça coûte trop cher et les autres nous répondent bah oui mais ça rapporte beaucoup etc. Donc on s'en sort pas en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc l'idée ce serait de faire les deux aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois cet électrochoc, c'est-à-dire répondre à l'urgence de la crise. On parle quand même logement, je ne vais pas vous refaire tout le hiatus, ça va. Mais il y a aussi le sujet de si on veut éviter à chaque fois ces mouvements-là et ce cycle à chaque fois et où on se dit bon, bah, alors je vais remettre un petit peu au pot, peut-être qu'il serait temps d'avoir une vraie politique du logement. Mais là, effectivement, c'est assez désespérant quand on entend la majorité, l'essentiel de tous les rouages de ce secteur de l'immobilier et du logement qui nous disent c'est vraiment là, on est vraiment dans une crise très profonde. Et le gouvernement qui nous dit bon, si on va faire des économies sur un ministère, ce sera notamment celui du logement. À un moment donné, il va falloir savoir ce dont on parle. Et puis, on va en parler ces prochains jours à l'antenne, mais il y a aussi un enjeu de finances publiques au sens large. Quand on dit, oui, ça coûte, mais ça rapporte beaucoup plus aussi aux collectivités locales. C'est-à-dire qu'un effondrement du marché de l'immobilier, c'est moins de rentrées pour les départements notamment. Et on va en prendre la mesure dans les mois, les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup dit, ouais, vous avez vu, je vous en parlerai, mais vous avez vu les droits de mutation, les fameux frais de notaire, mais qui vont au bénéfice en priorité des départements. Ils avaient explosé à mesure que le nombre de transactions s'envolait et les prix aussi. Oui. Sauf là, que là, on est dans un retournement de marché sur l'ancien, je précise. Et donc, de fait, on va avoir plusieurs milliards d'euros en moins dans les caisses des départements. Donc, on va commencer à mesurer un tout petit peu l'impact, la chaîne, en fait, et tout ce que ça implique. Là, les acteurs du secteur font la corrélation avec l'emploi, l'objectif de plein emploi du président Macron. Il est bien, son objectif, mais encore faut-il qu'ils prennent conscience que c'est aussi corrélé à la capacité des entreprises à loger leurs salariés. Et c'est très important. Pareil sur la mobilité, même chose.
D'autant que, tout va mal sur ce monde immobilier. Mais on a des chiffres aussi sur le neuf, etc. Parce que, on parlait de l'ancien, mais il n'y a pas que ça, Virginie.
Non, mais c'est... Alors après, c'est un peu incantatoire. Et il faut aussi ramener sans doute la proportion du neuf par rapport à ces... 100 000 transactions pour les appartements, grosso modo, bon an, mal an, 150 000 pour les maisons neuves, parce qu'on oublie toujours ce petit segment, sur plus d'un million, un million d'autres transactions l'an dernier, etc. Donc, faut remettre en perspective, c'est certes une filière, je vais pas dire le contraire, des menaces sur l'emploi, etc., etc. On est aussi dans un contexte réglementaire très pressant, puisque donc il y a eu toutes ces contraintes, réglementation environnementale, RE 2020 sur les modalités de construction, à venir zéro artificialisation nette des sols. Le logement devient un produit cher. Et on le voit dans les chiffres du laboratoire de l'immobilier. C'est un bilan qui est établi chaque année. On est dans les villes de plus de 45 000 habitants, qui évidemment concentrent l'essentiel de la construction neuve, à 5 600 euros le mètre carré en moyenne en France. Si on prend le top 15 des villes, 5 900 euros le mètre carré, avec des augmentations qui sont comprises entre 6 et 7%, quelles que soient les communes, et même plus de 7% à Lille, à Nantes, à Toulouse, à Toulon. Donc ça fait vraiment quand même des prix qui sont très chers. Et pour l'instant, c'est là où il y a une crise et en même temps, je pense que les attentes des Français qui veulent devenir propriétaires, c'est une baisse des prix, sauf qu'on ne la voit ni dans l'ancien, ni dans le neuf. Et comme, de toute façon, il y a un accès restreint au crédit, on se retrouve dans une équation très compliquée. Mmh. Si on rajoute des aides type prêt à taux zéro, souvent, on le voit dans l'ancien, la marge de manœuvre qui est censée bénéficier à l'acquéreur, elle va tomber dans l'escarcelle du vendeur. Donc en fait, le problème, c'est de trouver aussi des dispositifs, des mesures qui ne soient pas inflationnistes et qui permettent réellement de contribuer à l'accession à la propriété, au marché locatif et à loger véritablement les gens là où il y a des besoins, puisqu'on entend souvent ces incantations sur « il n'y a qu'à réquisitionner les logements vacants » ou que sais-je, ou interdire les résidences secondaires, peu importe. Souvent, c'est valable évidemment dans une grosse partie des logements, ce sont des logements qui ne sont pas là où sont les besoins. Donc avant tout, et pour mener à bien une politique du logement, il faudrait surtout pouvoir, c'est une des conclusions qui est avancée par le CNR, quantifier réellement les besoins des Français pour les accompagner dans l'emploi, dans l'insertion, dans tout ce qui est important
mais
Virginie, pour eux.
Enfin, moi, je rejoins tout à fait ce que dit Virginie, c'est-à-dire dans l'absolu, c'est pas la panacée de relancer le PTZ, c'est pas la panacée de relancer de faciliter l'accès au crédit, parce qu'on sait que ça a un effet inflationniste.
Mais il faut toujours des mesures d'urgence qui permettent de conserver l'emploi ou ce genre de choses, et après une planification à long terme.
C'est ça, c'est là on va être obligé de corriger parce qu'on est quand même sur une crise majeure. Mais derrière, encore une fois, il faudrait qu'il y ait une vraie politique du logement. Et ça, c'est toujours ce qui pêche. Et c'est quand même assez désespérant. Je ne vais pas accabler Emmanuel Macron que lui, parce qu'en fait, tous les gouvernements précédents, c'était toujours ça. Ils arrivent au pouvoir, ils veulent faire des économies sur le logement. Donc, ils réduisent les aides. Pour autant, ils ne lancent pas de vrais programmes, de vraies politiques du logement. Et puis, au bout du mandat, on se rend compte que le secteur est en train de dégringoler. Qu'est-ce qu'on fait en fin de mandat pour éventuellement espérer pouvoir se faire réélire? On rebooste les dispositifs d'aide qui ont en plus un effet inflationniste. Et puis bim, la construction repart. Vous savez, quand le bâtiment va, tout va. Et puis bim, et voilà. Et on repart. Et le prochain gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il fait ça coûte cher le logement. Je baisse la dépense. Et à chaque fois, c'est la même chose. Est-ce qu'à un moment donné, on va prendre conscience que sans politique du logement, on sera toujours dans ce cercle vicieux et avec toujours cet effet forcément à la fin inflationniste sur les prix? Après, sur l'ancien, les prix vont quand même sans doute finir par corriger. Sans doute pas autant qu'il aurait fallu pour permettre au marché de se fluidifier réellement. En revanche, pour le neuf, et c'est tout le paradoxe, on n'arrête pas de le répéter, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas possible compte tenu de la réglementation, des réglementations environnementales, compte tenu de la cherté, de la rareté du foncier, compte tenu des exigences des banques, parce que pour se faire financer un promoteur, il a aussi besoin que la banque le finance. Et quand la banque veut financer un promoteur, elle lui demande un minimum de marge. Donc, on peut accabler certains promoteurs qui sont pas tout blanc tout le temps, mais enfin quand même, à un moment donné, quand vous êtes complètement bloqué, vous avez de plus en plus de promoteurs qui ne font rien en fait. Vous avez plus intérêt à ne rien faire, ne rien lancer, ne rien construire aujourd'hui qu'à essayer de le faire en fait. C'est ça qui est désespérant.
Non, mais c'est bien ce qu'ils font d'ailleurs.
Il faut payer les équipes, il faut payer. Ouais. Mais de toute façon, il va falloir agir sur deux leviers qui sont forts, c'est le foncier, donc qui quand même constitue pas loin de 40%, je crois,
40 à 50%
du prix de revient et du coût de revient d'une opération. Donc ça, à un moment, il va falloir trouver une solution. La deuxième solution, c'est au niveau de la fiscalité. C'est vrai que Bercy a du mal avec toutes les incitations fiscales, mais il y a quand même juste remettre le statut
du bailleur privé. L'inversion de la fiscalité sur les investisseurs fonciers.
Ils sont partis en courant. Vous n'investissez pas dans le logement qui vous rapporte du 2% tout mouillé avant impôt quand vous avez le livret A à 3, c'est tout.
Allez, on marque une petite pause dans ces échanges immobiliers. Le temps de retrouver nos traders et Stéphane Pedrazzi pour la polémique du jour. Et on replongera dans ce monde immobilier. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file rejoindre nos traders qui scrutent leurs écrans pour lire pour vous la séance du jour. Jean-Louis Cussac et Gilles Santacreux sont aux commandes. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. Bonjour. Gilles depuis Boursicoté, Jean-Louis depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Gilles, comment voyez-vous les choses? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces 7004 abandonnés pour le moment?
Non, parce que ça fait quelques jours que l'on tourne autour de cette zone. On est dans un range qui évolue entre deux zones, 7380, 7450. La semaine dernière, déjà, je vous indiquais un niveau intraday à 7355 points. On est juste venu tester ce niveau ce matin, ça a été assez rapide, et puis ensuite, on est remonté au-dessus de cette zone des 7380 points. Donc, on s'inscrit dans une phase globalement de consolidation. On neutralise ce mouvement de consolidation, mais sans redonner de biais directionnel. Donc, on est dans une zone d'attente. Au niveau des chiffres, aujourd'hui, on aura les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés en Europe. On aura une intervention de la Banque centrale d'Angleterre à 11h50. Cet après-midi, c'est du côté des États-Unis, c'est stocks de pétrole et les permis de construire. Donc, le marché, en fait, il est pour l'instant inquiété juste par les discussions autour de murs de la dette. On voit qu'au niveau des entreprises, quand ça délivre, on le voit avec Vallourec ce matin, eh bien, les investisseurs sont là. Par contre, on a eu des résultats un peu plus mitigés du côté des États-Unis. Donc voilà, c'est une somme un petit peu de perspective et d'inquiétude qui fait que le marché ne bouge pas. On a très peu de volume ce matin. Et pour vraiment dégager un biais directionnel, il faudrait soit repasser durablement au-dessus des 7450 points, qui sera un premier signal pour nous donner une perspective de retour sur 7005, qui, en cas de cassure, eh bien, nous redonnerait un biais haussier directionnel plus puissant. Soit descendre et donc une cassure des 7320 points nous donnerait là un signal de poursuite de la phase de consolidation vers des niveaux bien inférieurs, par exemple aux alentours des 7200 points. Tant que l'on est dans cette zone de range, c'est difficile de définir un directionnel. Au niveau de mes algorithmes, on a une probabilité haussière qui est en train de se dégager, qui est en train d'émerger, mais avec une conviction qui reste encore assez moyenne. Donc voilà, difficile, il faut naviguer à vue hein, dans ce marché qui est pour l'instant indécis et s'en remettre eh bien, aux statistiques majeures ou à l'évolution de la macro et notamment sur le sujet du mur de la dette du côté des États-Unis.
Voilà pour Gilles Santacre. Jean-Louis, comment considérez-vous cette tendance et ce seuil des 7400?
Au moment, Cédric, où vous avez démarré en disant qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on soit passé en dessous des 7400, on était repassé au-dessus à l'instant même, c'est incroyable. Vous vous rendez compte ce matin? Moi, comme d'habitude, j'achète. Je ne fais qu'acheter sur des replis. On est allé chercher 7356. 7356 dans le vide. Il n'y avait rien et on est remonté avec rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie. La volatilité de la densité, là, pour le coup, elle est assez incroyable. Il y a ou il n'y a pas. Et ça, là, en ce moment, il n'y a pas du tout. Donc, on fait des mouvements. 0,65%, quelques minutes. Sans aucun souci. Alors, l'achat sur repli, bah, écoutez, reste d'actualité et est validé. Voilà, on ne peut dire que ça. Et je continue tant qu'on ne casse pas 7270. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, parce qu'il faut appuyer sur le bouton, mais c'est que psychologique. 350 millions d'échangés, c'est rien. Encore une fois, ce sont des volumes très faibles. Donc, le brassage d'intérêt n'est pas là. Hein, on l'a déjà dit, je l'ai déjà expliqué. Les acheteurs, ils espèrent plus bas. Les vendeurs, eux, ils voient que ça baisse pas. Ils se disent, j'ai le temps, ça va remonter, je vendrai sur des rebonds. Et de toute façon, les vendeurs potentiels ne sont pas tellement nombreux, si vous voulez. Il y a beaucoup de gérants qui sont plutôt sous-exposés. Aujourd'hui, vous avez Renault, Michelin qui détachent leur dividende, mais l'impact est de 3 points. Sur le CAC 40, ça va pas loin. On a des réactions violentes, en effet, sur les actions. Elior à la baisse, vraiment, moi là j'achète un peu quand même. Et Vallourec à la hausse, bon, voilà. Après, c'est l'euro. L'euro qui s'est affaibli ces derniers jours. Alors, les discussions pourtant sur le plafond de la dette américaine devraient amener un peu de doute sur le dollar, mais non, il n'y a pas de problème à ce sujet. Mais ce sont les statistiques économiques, hier notamment, hein, qui montre que la Fed ne pourra probablement pas baisser ses taux directeurs, si vous voulez, avant plusieurs mois. Ça va rester comme ça un peu long, assez longtemps. Alors le dollar, on a profité, hein, taux haut, évidemment, dollar intéressant, et puis l'or a baissé. Pour le reste, vraiment, on observe un copier-coller des jours précédents. D'accord. C'est un peu un statu quo. C'est vrai qu'il faut être opportuniste, il faut naviguer à vue. Mais en tout cas, acheter sur des replis reste la priorité dans ce genre de situation.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, et Gilles Santacreux, qu'on retrouve tout à l'heure chez Boursicoté.com. On se donne rendez-vous à 11h30. Le marché parisien, pour le moment, en baisse de 0,13, 7 396 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Stéphane Pedrazzi, bonjour.
Bonjour.
Les victimes de fraude à la carte bancaire vont bientôt être mieux remboursées.
Oui, les banques en tout cas ont fait un geste, un premier pas dans cette direction. Elles s'engagent à mieux traiter les dossiers de remboursement lorsque les clients ont été victimes de fraude. Et elles viennent de publier une série de 13 recommandations qui ont été élaborées avec des associations de consommateurs. Il y a notamment des mesures pour renforcer la lutte contre la fraude. Mais il y a aussi une simplification des démarches de remboursement lorsqu'une authentification forte a été réalisée. L'authentification forte, c'est lorsque votre banque vous demande deux moyens d'identification, c'est-à-dire un code et une confirmation sur votre portable, ou par exemple un mot de passe et une identification biométrique également sur le portable. C'est un point important parce que jusqu'à présent, et c'est un point qui faisait polémique, les banques avaient tendance à considérer comme une négligence le fait d'avoir validé, d'accord, avec une authentification forte, une opération frauduleuse. C'est un peu comme si vous aviez donné tout simplement le code de votre carte bancaire à une autre personne.
Sauf que ça n'est plus très adapté aux nouvelles formes de fraude.
Oui, notamment le spoofing. Le spoofing, c'est lorsqu'une personne vous contacte en usurpant l'identité de quelqu'un d'autre. Donc typiquement, vous recevez un coup de téléphone, sur votre portable s'affiche le numéro de votre banque, vous êtes persuadé de parler à votre conseiller bancaire et en réalité, c'est un escroc qui va vous demander de valider une opération en utilisant justement une authentification forte. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de négligence de la part des consommateurs alors qu'en réalité, il a été piégé? C'est aussi pour ça que les banques ont décidé de faire un geste.
Qu'est-ce qui a fait bouger les banques ?
Alors déjà, une décision de justice. Il y a la cour d'appel de Versailles qui a condamné BNP Paribas au mois de mars à verser 54 000 euros à l'un de ses clients, en fait à rembourser une fraude à l'un de ses clients qui avait été victime de spoofing. La banque, elle, parlait de négligence. Ce qui a aussi fait bouger les lignes, c'est la multiplication en fait de ce type de fraude, type d'arnaque. La fraude aux faux conseillers bancaires, désormais, c'est dans le top 10 des arnaques les plus répandues. Sachez quand même que ça concerne beaucoup de monde. 8,4% des Français l'an dernier ont été victimes de fraude bancaire, selon une étude Opinionway, pour un préjudice moyen de 800 euros. La moitié des préjudices est inférieure à 100 euros, mais la moyenne, c'est 800 euros par personne. Ça fait quand même beaucoup.
Stéphane Pedrazzi et la polémique du jour. Merci Stéphane. Le CAC en baisse de 0,13%, 7 396 points. Et nous, on revient à nos considérations immobilières.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le club IMO qui revient donc avec autour de la table Virginie Grolot pour Challenge, Éric Tréguier pour Business IMO.
Gaël Thomas. Gaël Thomas.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Éric Tréguier, je sais, embarqué, il vous manque, mais...
Non, je guettais que Marie soit assise. Et j'étais en pilotage automatique.
Il a fait exprès de se tromper pour me laisser le temps de m'installer. Il est gentil.
Donc Gaël Thomas pour Business IMO et non pas Éric Tréguier. Et donc Marie Cœur de Roy qui est assise.
Ça y est,
la chaise est réglée.
Il n'y aura plus d'excuses.
Tout va bien. Donc Gaël, puisque c'est avec vous qu'on reprend, en cause de télétravail et de bureau, il y a une étude de l'IEIF.
Oui, tout à fait. Une étude de l'IEIF pour mesurer l'impact du télétravail sur la consommation de mètres carrés de bureaux en Île-de-France. Je rappelle que l'Île-de-France est le premier parc tertiaire, un peu plus de 55 millions de mètres carrés en stock. Et donc on s'inquiète, en tout cas les propriétaires, les investisseurs, s'inquiètent de savoir si ce fameux télétravail...
Il y aura toujours des locataires.
...va enlever un certain nombre de locataires. Que dit cette étude ? Que grosso modo, c'est un peu plus de 3 millions de mètres carrés qui vont être impactés en Île-de-France. C'est 6% du parc, alors on est sur des visions long terme. Et on a pris comme scénario, l'IEIF a pris comme scénario central 2 jours de télétravail. C'est à peu près, ils se sont basés à peu près sur les moyennes, 4000 accords d'entreprise signés en 2021 et qui accordent 2 jours hebdomadaires de télétravail. Comment ça se traduit ça chaque année? Chaque année, en fait, c'est comme si on retirait 358 000 mètres carrés de bureaux dans la consommation. Donc c'est pas grand-chose par rapport au parc, hein, 0,65. C'est quand même 15% de la demande placée si on regarde les moyennes décennales, donc ça commence à chiffrer. C'est surtout 80% de l'absorption nette. C'est quoi l'absorption nette? C'est la différence entre les mètres carrés que j'ai consommés, que j'ai loués, et les mètres carrés que j'ai rendus. Et grosso modo, le taux d'absorption net, eh ben, il peut être négatif quand vous remettez plus de mètres carrés sur le marché que vous n'en consommez. Il est positif. À l'inverse, quand vous consommez plus de mètres carrés que vous rendez.
J'ai été perdu, moi.
Et non, c'est quand même un indicateur assez intéressant. Alors, ils ont comparé ça avec qu'a dit le marché. Ça, c'est les prévisions. Qu'a dit le marché? Bah, le marché, il dit à peu près comme les prévisions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une augmentation de l'offre immédiatement disponible, des bureaux tout de suite alloués, plus de 319 000 mètres carrés l'an passé. Donc, c'est plutôt des bonnes prévisions. Et ensuite, il faut regarder que l'immobilier, c'est local, et que tous les secteurs et tous les marchés ne sont pas à égalité. À Paris, l'impact, il est nul sur le télétravail. Ça, c'est pas ressenti. Parce que le marché, d'abord, est sous-offreur. Et puis, surtout, on est la création d'emplois, encore. On crée des mètres carrés. C'est l'impact théorique du télétravail pour les entreprises logées à Paris, c'est 116 000 mètres carrés. Voilà. Théoriquement, c'est ce qu'on vous retire. Sauf que la création d'emplois de bureaux, c'est 124 000.
Donc il en manque toujours.
Donc il en manque toujours un petit peu. Et puis il faut regarder un peu les marchés Hauts-de-Seine et la Défense, qui sont assez corrélés à ce qui se passe en Île-de-France. Sur le marché de la première couronne, c'est beaucoup plus compliqué. Le taux d'absorption net, là, il est très très négatif, moins 240 000 mètres carrés. Donc grosso modo, chaque année, c'est 240 000 mètres carrés de bureaux inoccupés qui arrivent sur le marché, qu'ils soient neufs, qu'ils soient anciens. C'est ce qui se passe. C'est le décalage vraiment entre l'offre et la demande, et c'est surtout une demande qui devient de plus en plus sélective, de plus en plus compliquée. Et oui, il y a un impact du télétravail, il n'y a pas que ça. Il faut regarder d'autres facteurs comme la création d'emplois de bureaux. Et moi, je vous mets un petit billet que tout ce qui est intelligence artificielle, ChatGPT et compagnie, ça va consommer beaucoup d'emplois tertiaires. On en reparlera dans quelques années, mais elle est là, la véritable angoisse, en fait.
Vous rappeliez le côté sous-offreur du marché parisien, mais est-ce que justement il y a aussi une ségrégation qui se fait en fonction de la qualité de son bureau? J'imagine que quand on tient un truc pas mal au cœur de Paris, même si on a quelques salariés qui sont pas là le jeudi et le mardi, on va pas pour autant se séparer de son bel emplacement entre guillemets. Alors que si on a un truc un petit peu moins coté, un petit peu moins au goût du jour, un petit peu plus énergivore,
on s'y accroche parce que
On s'y accrochera moins, non?
On s'accroche parce que l'outil immobilier, et notamment dans le bureau, c'est un outil pour retenir les talents, pour en attirer d'autres. Ouais. Et donc, regardez un peu les mouvements que font les grands cabinets de conseil et d'audit, dont certains quittent le secteur de la défense pour revenir dans Paris. Ils rentrent des mètres carrés, ils en consomment beaucoup moins, mais ils se recentrent sur des quartiers qui sont beaucoup plus attractifs. Ça marche avec les jeunes, ça marche avec les moins jeunes. Très sincèrement, il y a des quartiers où, si vous voulez attirer, il vaut mieux avoir quelques bistrots à côté, un peu de théâtre, un peu de culture. Et là-dessus, Paris fonctionne très bien.
Voilà donc pour ce télétravail et le bureau, étude donc signée par l'IEIF. Un mot, Virginie, de la proposition de loi concernant le meublé touristique.
Faudra attendre, non, c'est ça.
Et alors, effectivement, il y avait
un problème d'agenda.
Il a été CNRisé.
C'est un problème d'agenda, peut-être.
On va dire ça. Mais c'est un problème d'agenda, effectivement, officiellement. C'est une proposition de loi donc, qui vise à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue. Cette proposition de loi avec trois articles qui étaient effectivement très attendus, dont l'examen devait avoir lieu la semaine du 12 juin, et ça a été décalé au mois d'octobre, puisqu'il y a un texte visant à lutter contre les déserts médicaux qui lui est passé devant. Officiellement, c'est la raison. Ces trois articles, alors on les attendait quand même, moi je trouve, en matière de logement, parce qu'il y avait tout d'abord le DPE, les fameux DPE sur les meublés touristiques, alors qui aurait dû, donc la proposition c'est de s'imposer aussi en meublé comme dans la location traditionnelle, sauf décision du conseil municipal, pour circonstances particulières, parce qu'il faut quand même prévoir un peu de souplesse dans le mécanisme. Il y a, deuxième article, l'extension des autorisations, puisqu'aujourd'hui ce sont les villes de plus de 200 000 habitants et quelques communes aussi ou départements. Là c'était ce régime d'autorisation étendu à toutes les zones tendues, et notamment donc AA bis et B1. B1, je rappelle que c'est des villes comme Bordeaux ou Nantes, hein, donc c'est pas des petits marchés. Et le troisième article qui visait à réaménager, on va dire, parce que le système est complexe, mais en tout cas à réduire l'abattement de 71% sur les meublés classés de tourisme, qui est un avantage fiscal. L'objectif, c'était de le réduire, puisque bien sûr, tout avantage fiscal entraîne forcément quelques petits dérapages. Et donc, on attribue en tout cas une partie de cet avantage fiscal, on attribue une partie de la désaffection des propriétaires pour la location traditionnelle au profit de la location meublée touristique. Alors on attendra. Voilà, encore. C'est là où on se dit, ça manque un peu de cohérence, puisque on pourrait imaginer l'urgence de ces textes quand on voit dans certaines communes comme à Bayonne, comme le Pays Basque, comme de toute façon les côtes bretonnes, enfin toute la façade atlantique est sensible à ces problématiques. Saint-Malo, on dit que le centre-ville c'est 30% de meublé touristique. Alors Saint-Malo est une ville magnifique, fantastique, mais effectivement à un moment il y a des gens place qui ont besoin de se loger aussi. Hein, donc il y a des vraies difficultés en local. Il y a des difficultés pour les entreprises à recruter ou à développer certains sites de production. Donc, cette proposition de loi était très attendue et va encore se faire désirer, comme d'habitude.
On va attendre. Décidément, ouais, les problèmes d'agenda, je sais pas, faut leur offrir un smartphone.
C'est assez déprimant parce qu'en fait, moi, c'est toujours la question de quoi on parle, en fait. Moi, il y a des urgences en fait. Bien sûr, oui, on peut considérer qu'il y a beaucoup plus urgent. Enfin, avoir un toit digne au-dessus de sa tête, pouvoir travailler là où on a envie, là où on vit. Enfin, je sais pas.
L'activité touristique aussi, c'est là où le bas blesse. Hein, créer de l'emploi aussi. Hein. Certain dynamisme économique ou renforce ou étend en tout cas.
Oui, mais on a toujours ce problème des travailleurs locaux.
C'est pareil,
vouloir visiter une ville, avoir des restos. Les serveurs, les saisonniers peuvent pas se loger.
On n'arrive plus à loger, qui sont dans des caravanes.
On manque de logement là où sont les besoins.
On en revient toujours au même sujet.
On se répète.
C'est même pas un problème d'agenda, c'est un problème de coordination.
Ouais. Ouais.
Pas de suite dans les idées.
Réflexion, ouais, même.
une vision prospective sur les rendements immobiliers en Europe. Vaste titre. Gaël.
Chapitre
sous-titré La lumière au bout du tunnel.
Oui, c'était une étude AW, un grand gestionnaire d'actifs immobiliers, qui a essayé de faire une étude prospective intitulée Le bout du tunnel. Donc, avec un point d'interrogation. Oui. Bah, le bout du tunnel, il est plutôt après 2024, hein, grosso modo. Et donc, ils ont essayé de se projeter sur le rendement escompté de l'immobilier. Le rendement escompté, c'est 6-8. Ce qui est énorme, donc on n'y est pas tout à fait.
Belle perspective en tout cas.
Ils ont un peu pris de la drogue.
Non, ça fonctionne assez simplement en fait. 300 points de base, c'est les taux sans risque. Hein. C'est grosso modo ce que vous pouvez placer, vous et moi, sur le livret A sans problème. Vous anticipez la baisse de valeur, c'est 186 points de base. Vous rajoutez une prime d'illiquidité sur l'immobilier parce que c'est un petit peu plus compliqué à vendre et à acheter qu'une action ou qu'une oblig, c'est 150 points de base. Vous rajoutez un petit prime de risque sur l'écologie, sur l'environnement, sur le côté climatique, vous arrivez à 690 points de base. Ça, c'est le rendement escompté. C'est-à-dire que là, quand je suis institutionnel et que je peux avoir cette performance globale, quand je parle de rendement global, c'est le rendement locatif plus le rendement en capital, c'est-à-dire la valorisation. Si je peux avoir ce total return, cette performance de 6,90, j'y vais. D'après AW, on va l'obtenir sur 70% des marchés européens. Ils ont screené, je crois, à peu près 268 sous-marchés. Toutes catégories d'actifs confondues, on est principalement sur l'immo d'entreprise. On va l'atteindre a priori à partir de 2024. Ce qui veut dire qu'en attendant, on va avoir un rendement, une performance globale qui va être nulle, voire négative à très court terme. Toujours ajustement des valeurs. Par rapport à la hausse des taux. Et ensuite, il faut regarder d'autres facteurs. On reparle du télétravail, on reparle de la santé des bureaux. On voit que certains marchés européens sont beaucoup plus résistants que des marchés, notamment américains. Il y a une crise assez violente sur les bureaux aux États-Unis. On voit que le commerce, il y a des faillites d'enseignes. Mais il y a aussi des augmentations de loyers grâce à l'indexation. Donc il y a quand même des phénomènes qui s'annulent. Et puis sur la logistique, on voit bien qu'avec la logistique et l'industriel, avec les politiques de réindustrialisation ou moins de relocalisation des entreprises en Europe, et ben ça dynamise aussi les marchés immobiliers. Donc voilà un peu ces études prospectives.
Ouais, Marie disait ils ont pris de la drogue. Je ne sais pas s'ils en ont. Mais voilà, qu'est-ce qu'on se dit en voyant ces chiffres qui paraissent hallucinants? On se dit que c'est crédible, que ça l'est pas, que
que l'immobilier reste un placement long terme. Et donc on se dit que il y a quelques années qui vont être compliquées parce qu'il y a eu un ajustement des taux d'intérêt qui a été violent, soudain, dû à l'inflation. Mais on se dit que dans un placement long terme, alors tout le monde a compris que l'argent allait coûter. On s'était habitué pendant 10 ans ou 15 ans à avoir de l'argent gratuit. Tout le monde avait fait ses primes de risque par rapport à l'OAT, tout le monde avait fait ses valorisations par rapport à ça. Les systèmes de valorisation vont changer, mais les loyers, ils vont continuer à tomber parce que l'immobilier reste toujours un support pour loger les gens, pour loger les entreprises, pour loger les industries, et qu'au bout d'un moment, ce moteur, tant qu'on n'est pas en crise économique ou en décroissance forte, c'est pas le scénario de 2023, on va être en croissance molle, je crois, plus 0,3 au niveau européen, et ben, ça, les loyers continuent à tomber. Donc l'immobilier reste un placement.
Donc ça prouve encore un peu plus, avec une autre étude, avec un autre secteur, etc. Ce qu'on dit depuis le début, c'est un temps très long sur lequel il faut se laisser de l'inertie et autres et pas changer toutes les petites minutes.
Vous pouvez faire des coups, vous pouvez jouer au marchand de biens, mais
il faut un peu de réflexion.
Des professionnels, attention. Hein, et moi, je ne suis pas un professionnel. Donc, si j'essaie de faire des coups, je peux vous dire, je vais les perdre.
Cascade réalisée par des professionnels à ne pas réitérer chez soi. On termine, il nous reste 5 petites minutes pour profiter des moulins du village. Virginie.
Oui, puisque alors on m'a dit que je n'avais pas trouvé assez joli la dernière fois ou assez cher.
C'est pas vrai, moi j'ai jamais dit ça.
Donc je suis allée regarder auprès du réseau Sotheby's et j'ai trouvé près de Nice un très joli domaine qui s'appelle les Moulins du Villard, qui sont situés près de Nice. Et donc c'est évidemment, comme son nom l'indique, un ancien moulin à huile d'olive. Vous avez un bâtiment principal qui date du XIVe siècle, de 540 mètres carrés, je pense que ce sera assez grand, qui a été totalement restauré en 2012. C'est là où il peut y avoir plusieurs vies, hein, dans le bâti immobilier. Il est complété, donc vous avez deux salons, un ascenseur, une demi-douzaine de suites, une grande salle télé.
Oh là là, une cave.
Une jolie cave à vin.
Oh là là.
Une jolie cave à vin. Ben oui,
on dit ça pour ceux qui seraient à la radio, il y a aussi de belles images à la télé.
Vous avez une très belle pierre et une très très belle restauration, je trouve, mais ça c'est mon goût. Vous avez aussi deux autres bâtisses, donc un sanctuaire qui sont des ruines restaurées pour faire des fêtes, un cabanon qui est une maison d'hôte de deux pièces.
J'aimerais bien voir la tête aussi du cabanon.
Mais elle serait suffisante, je pense, pour votre bonheur. Et puis ça, c'est un ancien domaine qui est sur plus de 2 hectares. En amphithéâtre, vous êtes au bord d'une rivière qui s'appelle l'Esteron, dans une petite ville qui s'appelle Gilette. Vous avez une 16 terrasses qui donne, en fait, en escalier comme ça, qui donne sur le vallon. C'est assez beau. Vous avez évidemment une piscine à débordement chauffé, un studio de fitness, un court de tennis, un héliport. J'espère que je suis arrivée au standing requis.
Marie est très exigeante, donc attention.
Je fais. Port, ça sert à rien de toute façon. Voilà.
Et donc ce domaine a été notamment fréquenté par la princesse Grace Kelly. Je vous rappelle, on avait parlé il y a un mois à peu près d'un bien qui avait servi de tournage à la main au Collet. Ce bien a été vendu d'ailleurs au prix. La villa Les Bolovans, elle a été vendue. Et donc là, je vous ai retrouvé autre chose un peu dans le même style, mais en beaucoup plus grand. Et c'est à vendre.
pour la modique somme de 11,5 millions.
Voilà. Bon. Mais c'est quand même plutôt beau, je trouve.
Non,
mais ça, c'est vraiment le trophy asset que peuvent chercher notamment beaucoup d'acquéreurs étrangers, pas beaucoup d'acquéreurs français, hélas. Mais on est...
c'est ce que nous disait Laurent Demeure en début de semaine.
C'est que sur le très haut de gamme, ça marche bien.
Après, il va falloir le vendre encore. Ça se fait pas en deux jours.
Non, je dis pas, mais c'est un monde qui aujourd'hui, il n'y a pas trop de problèmes de financement.
Oui, justement, eux vont pas emprunter à 4%.
Non, mais parce que c'est de l'investissement.
Pas tout à fait le produit pour les primo-accédants, ça.
Non, c'est pas le produit pour les primo-accédants, mais c'est aussi un investissement. Ce type de propriété, c'est un actif et c'est pensé d'ailleurs comme un véritable actif et pas que une maison de vacances.
On se demandait en voyant tout ça tout à l'heure si on pouvait pas proposer à nos banquiers, je sais pas, d'envisager un prêt sur 125 ans qu'on laissait.
La Caisse des dépôts fait ça pour les bailleurs sociaux.
À nos enfants, pour pouvoir.
Il va falloir les convaincre que c'est du social, c'est compliqué.
Non, on n'a pas dit ça. On a dit...
pour plein d'usages.
Il y a plein d'usages.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé donc à ce Club IMO cette semaine encore. Virginie Grolot donc pour Challenge. On lancera le Challenge de savoir si quelqu'un trouve mieux.
Voilà.
Rien à dire sur le papier peint de la chambre en écossais.
Non, moi c'était les faux trucs de bois, les faux rondins de bois là. Voilà, ça je suis pas hyper fan par contre. Le papier peint, faux rondins de bois. Presque, je préfère l'Écosse.
Elle est jamais contente. Voilà.
Non, bah, je vous disais que Marie était très compliquée.
On peut espérer quand même. Voilà, c'est ça. On peut se permettre de critiquer.
C'est une question de goût.
Quoi.
Gaël Thomas, donc pour Business Imo, je ne me serais pas retrompé. Et Marie-Cœur de Roy qui m'abandonne, c'est ça désormais? Je termine la semaine prochaine.
Juste deux jours, bah oui. Je m'occupe de mes petits choux quand même.
Et nous, on sera là demain pour la BFM Patrimoine et pour la vie IMO. On retrouvera Marie lundi matin. Dans un instant, ce sont les marchés qui nous occuperont. Des marchés qui, pour le moment, eh bien, sont assez hésitants. Ça se joue autour des 7400 points. On verra ce que nous en disent les spécialistes de Ports-en-Part dans un instant. Et puis, à suivre, regard croisé, Thibaut Prébet, Véronique Riche-Flores. À tout de suite.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.